Kamel Bensala, quadruple meurtre dans le Gers. Narration, Florent Houllier. Le samedi 22 mai 1999, à Montfort, dans le Gers, quatre personnes sont retrouvées massacrées à la ferme La Boupillière. Il s'agit de deux couples, Arthieu van Hulst et Marianne, les propriétaires des lieux, ainsi que Johan Nieuwenhuis et sa femme Dorothea. Cette dernière est la sœur de Marianne, un massacre familial qui est survenu deux jours plus tôt. Les enquêteurs pensent rapidement à un assassinat perpétré par l'ouvrier des propriétaires de la ferme. En voulant effacer les preuves de son implication, Kamel Bensala s'est trahi lui-même. Bensala a été condamné à 22 ans de détention criminelle. Pour son avocat, il a été désigné comme le coupable idéal. Pourtant, l'accusé a toujours nié son crime. Les preuves ne reposent sur rien, selon sa défense, ou du moins pas grand-chose. À peine une empreinte ADN présente sur le ruban adhésif qui a servi à bâillonner les victimes. L'homme, connu pour avoir travaillé chez le couple van Hulst, avait forcément fait usage du ruban adhésif quelques jours plus tôt. Les premières victimes, Arthie van Hulst et son épouse Marianne, forment un couple d'amoureux originaire des Pays-Bas. En 1998, ces deux industriels néerlandais, travaillant dans la commercialisation de matériel de sécurité, prennent la décision de quitter leur pays d'origine, la Hollande, pour s'installer définitivement dans le sud-ouest de la France, région pour laquelle ils ont eu un véritable coup de cœur. Ils tombent sous le charme d'une charmante maison ancienne située dans le hameau de Boupillière, bien que des travaux y soient nécessaires. Le couple a des projets ambitieux. Ouvrir une auberge ou des chambres d'hôtes dans cette maison, qui représente pour eux le paradis. Malgré les gros travaux à entreprendre, Arthie et Marianne sont déterminés à faire de cet endroit le lieu idéal pour y trouver repos et confort. Ils travaillent dur pour concrétiser leurs rêves et achètent la propriété à Montfort pour un montant inférieur à 800 000 francs à l'époque, environ 130 000 euros. Mais leurs rêves s'arrêtent brutalement au soir du 20 mai 1999. Le 22 mai, un couple de Néerlandais habitant à proximité, Henri Wagemans et Wilhelmina Peters, des amis des Van Hulst, s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles d'Arthie et de Marianne. Ils ont l'habitude de se voir régulièrement. La veille, tous deux étaient invités chez eux pour dîner, la porte est restée close et personne n'est venu leur ouvrir. Cela fait 24 heures que Wilhelmina et Henri essayent de joindre le couple par téléphone. La ligne sonne toujours occupée. C'est étrange. Le couple d'amis fait à nouveau le déplacement jusqu'au hameau. Ils découvrent une maison étonnamment silencieuse, les volets fermés. Ils se rendent chez le premier voisin des Von Hulst, à un kilomètre de là. C'est chez lui que les propriétaires de la ferme viennent déposer les clés lorsqu'ils s'absentent. Aimé Gorges, le voisin, leur apprend que le couple n'est pas venu chez lui. Henri et Wilhelmina parviennent à entrer dans la maison. La porte d'entrée était tout simplement ouverte. Lors de leur venue pour le dîner, ils s'étaient laissés berner par le portail à la chaînette tirée, barrant l'accès aux véhicules sur la propriété. Ce qu'ils découvrent va les marquer profondément. Un cri d'horreur retentit dans la ferme. Les secours sont immédiatement prévenus. S'agissant d'un tout petit village de 450 habitants, le maire, Denis Carrère, est également mis au courant immédiatement. Ce samedi, il assistait à une représentation de la corrida de Vic. Plusieurs journalistes étaient également là pour couvrir l'événement. Le maire ignore totalement la présence de ce couple dans sa commune. Les Van Hulst n'avaient pas pris le temps de se présenter à la mairie depuis leur arrivée. Denis Carrère se charge d'appeler les gendarmes, mais est incapable de donner des noms. Les gendarmes font face à une scène de crime d'une rare violence. Habitués des petits délits, ils ne sont pas préparés à un tel massacre. Johan Nieuwenhuis, 61 ans, est le premier à être découvert. Son cadavre gît sur le sol de la cuisine. Il est allongé sur le ventre. Une quinzaine de coups ont transpercé sa chair. Des plaies béantes sont visibles sur ses jambes, ses bras, aux genoux et à l'abdomen. Ses pieds et ses mains sont ligotés avec des bandes adhésives. En continuant leur exploration de la maison, les gendarmes tombent sur le corps de Dorothea, 61 ans également, la gorge tranchée, ses membres et sa bouche entravés par du ruban adhésif, dans la chambre du rez-de-chaussée. Dans la seconde chambre à l'étage, Marianne van Hulst est découverte dans le même état. Le corps du propriétaire est retrouvé une heure plus tard, dans l'atelier, dont la porte se situe au fond du couloir du rez-de-chaussée. Celle-ci était verrouillée à clé. Les gendarmes enfoncent la porte et découvrent Arty, le corps criblé de 4 balles de fusil. Contrairement aux autres victimes, qui, elles, portaient encore des vêtements pour sortir, lui portait une salopette de travail. Comme s'il venait d'être tué pendant qu'il travaillait dans son atelier. L'arme du crime, quant à elle, a tout bonnement disparu. Selon leur première constatation, les gendarmes estiment que les 3 victimes, à l'exception de Arty, ont été assassinées avant ou après être sorties. Tous portent des bottes et sont encore vêtus de leurs anoraks. Les journalistes présents à la corrida sont rapidement alertés. Les gendarmes commettent l'erreur incroyable de leur donner accès aux différentes pièces de la maison, saccageant ainsi tous les indices qu'ils pouvaient collecter. La scène de crime n'est pas gelée, comme cela doit être fait en pareil cas, le temps d'effectuer toutes sortes de prélèvements. Les allées et venues de plusieurs personnes ne permettent pas une relève ADN convenable. La scène de crime devient inexploitable. Trouver des témoins probants, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La ferme est très isolée. Le premier voisin habite à 1 kilomètre de là. Le lieu idéal pour commettre un crime sans laisser de traces. L'heure du crime est estimée à la soirée du jeudi 20 mai. Les enquêteurs ont la confirmation que Johan, Dorothea et Marianne ont dîné ensemble chez un ami ce soir-là. Ce dernier dit aux enquêteurs les avoir vus vivants pour la dernière fois aux alentours de 22h30. Arty n'avait pas pu se joindre à eux. Il devait finaliser un travail. Une enquête menée en Hollande ne permet pas d'établir un début de piste. Les enfants des 2 couples, profondément bouleversés, ne comprennent pas du tout ce drame. Leurs parents n'avaient aucun ennemi. Ils apparaissaient comme très sociables et profitaient pleinement de la vie. Les gendarmes apprennent que les Nieuwenhuis étaient dans le Gers pour aider leurs amis von Hulst à rénover leur maison. Les enquêteurs ne privilégient toujours aucune piste. Ils ne savent pas s'il y a 1 ou plusieurs assassins. Le procureur d'Auch, Guy Etienne, qui s'est rendu sur place, a remarqué que le meurtre avait été soigneusement préparé. Il n'y a aucune trace de lutte. Le ou les assassins ont également pris des précautions pour masquer leur crime. Ils tenaient absolument à faire croire que les 2 couples étaient partis en voyage. 3 véhicules ont été retrouvés dissimulés dans le garage. La chaîne barrant l'accès à la propriété avait été remise. Le mobile du crime demeure un mystère. La famille n'a pas été tuée pour de quelconques objets de valeur. La ferme était encore en chantier. Il n'y avait quasiment rien à voler. En revanche, les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur les cartes bancaires des victimes. L'attention des gendarmes se porte d'abord sur un suspect, Kamel Ben Salah. Le peintre en bâtiment affirme avoir vu la famille vivante pour la dernière fois le jeudi soir vers 23h15. Il a lui-même pris l'initiative d'appeler les gendarmes après avoir appris le drame. Son témoignage semble coïncider avec l'estimation de l'heure possible du crime, établie plus tôt dans la soirée. Les gendarmes prennent note de la déposition de Kamel Ben Salah, puis laissent partir celui qui deviendra le seul coupable possible dans cette affaire. Par précaution, son téléphone est mis sur écoute. Quelques jours plus tard, un nouvel élément vient bouleverser l'enquête. On signale à la gendarmerie la présence d'une voiture avec de fausses plaques allemandes dans un champ à seulement 20 km de Montfort. Cela conduit les enquêteurs à contacter les autorités allemandes. Ces dernières les alertent de la présence de Dieter Zurwemme dans le Gers. Cet homme, évadé en décembre 1998 de la prison de Bielefeld, où il purgeait une peine à perpétuité pour meurtre, est désormais suspecté d'avoir commis 4 autres meurtres à Remagen, près de Koblenz, dans des conditions similaires à la tuerie de Montfort. Son lien avec les victimes est établi par le fait qu'il parle également le français et le néerlandais. Sa photo est diffusée dans toutes les gendarmeries de France, le plaçant au centre des suspicions. Cependant, l'enquête patine. Le tueur allemand est aperçu partout dans la région, mais aucun signalement n'est sérieux. Les enquêteurs s'intéressent de nouveau au cas de Kamel Ben Salah. Lors d'un entretien qu'ils ont eu avec Sven, le fils d'Arty et de Marianne, ils apprennent que ses parents se méfiaient de lui. Le couple aurait eu des doutes à plusieurs reprises quant à l'honnêteté de cet homme. Il était inconcevable de laisser l'ouvrier seul dans la maison. Arty ne lui a jamais confié les clés. Les enquêteurs commencent à imaginer un scénario machiavélique. Le propriétaire serait resté à la maison pour surveiller Kamel. Ce dernier, pour une raison ou pour une autre, lui aurait tiré dessus avec un fusil de chasse, pendant que Marianne, sa sœur et son beau-frère étaient partis dîner. Si Kamel a employé une arme à feu plutôt qu'un couteau, c'est qu'il devait certainement se rendre compte que dans un corps à corps, il ne pourrait pas faire le poids. Arti Van Hulst est un géant de plus de 2 mètres. Après avoir commis son crime, l'ouvrier aurait attendu que les autres occupants de la maison rentrent pour les attaquer au couteau. Comme l'a affirmé le médecin légiste de Toulouse, les victimes ont très certainement été torturées. Le mobile d'une telle barbarie est certainement l'argent. Kamel Ben Salah voulait obtenir les codes de leur carte de crédit. Non loin des cadavres, les gendarmes avaient trouvé des portefeuilles vidés de leurs cartes. Le ruban adhésif qui a servi à ligoter et à bâillonner les victimes a été envoyé dans un laboratoire d'analyse. Les résultats confirmeront ou infirmeront leur théorie.